Bonjour, Roland Gory est un psychanalyste, initiateur et président de l'association L'Appel des Appels, qui rassemble des professionnels du soin, du travail social, de la recherche, de l'information et de la culture. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?» et c'est paru aux éditions « Les liens qui libèrent ». Interview réalisée dans le cadre de l'UMA Café de Nantes.
Nous, professionnels du soin, de l'éducation, de la justice et de la culture, attirons l'attention des pouvoirs publics et de l'opinion sur les conséquences sociales désastreuses des réformes hâtivement mises en place ces derniers temps. À l'université, à l'école, dans les services de soins et de travail social, dans les milieux d'information de culture, la souffrance sociale ne cesse de s'accroître. Elle compromet nos métiers et nos missions. Au nom d'une idéologie de l'homme économique, le pouvoir défait et recompose nos métiers et nos missions en exposant toujours plus les professionnels et les usagers aux lois naturelles du marché. Cette idéologie s'est révélée catastrophique dans le milieu même des affaires dont elle est issue. Nous, professionnels du soin, de l'éducation, de la justice, de l'information et de la culture, refusons qu'une telle idéologie mette maintenant en faillite le soin, l'éducation, la justice et la culture. Nous appelons une coordination nationale de tous ceux qui refusent cette fatalité à se retrouver le 31 janvier 2009 à Paris.
C'est une idée très généreuse, mais ça ne fonctionne pas.
Vous attaquez tout de suite dans la provocation, quoi. C'est incroyable. Hein.
Bon, ouais. On a très peu de temps.
On a très peu de temps, très bien. Bon, écoutez, l'initiative de l'appel des appels, il ne faut pas oublier qu'elle émerge quand même sous l'ère sarkozyste. C'est-à-dire à un moment donné où les réformes qui sont entreprises par le gouvernement sarkozyste vise de manière tout à fait obscène et arrogante, hein, si je peux tenter le pléonasme, de transformer l'ensemble des services publics en entreprise privée, pas simplement en termes de production et d'évaluation financière, mais quasiment comme mode de pensée. C'est-à-dire que les fonctionnaires, comme les citoyens, doivent se transformer en espèce d'entrepreneur d'eux-mêmes et épouser les valeurs néolibérales. Alors, bon, bien sûr, ça commence par les évaluations gestionnaires dont on parlera. C'est-à-dire qu'on demande finalement à l'éducateur, à l'enseignant, au chercheur, au médecin, à l'infirmier, au journaliste, à l'acteur culturel, d'incorporer des critères gestionnaires, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, ça va être la tarification à l'activité, dans les laboratoires de recherche, ça va être le taux de production d'articles scientifiques en fonction des marques de revues. Donc, ce n'est pas la qualité de l'article scientifique qui compte, ce n'est pas la qualité de la recherche qui importe, c'est finalement la marque de la revue. C'est-à-dire, on est vraiment, si vous voulez, là, dans une civilisation des mœurs qui épouse tout à fait les valeurs de la société, de la marchandise et du spectacle. Et ça, avec le gouvernement Sarkozy, la couleur est annoncée, il n'y a pas d'état d'âme, et il y a véritablement un éloge, presque parfois un peu naïf et enamouré, de cette idéologie anglo-américaine d'un néolibéralisme, d'un capitalisme financier avancé, je dirais. Bon. Donc il faut bien voir quand même que ça se produit à ce moment-là. On verra que le logiciel n'a pas forcément changé avec le gouvernement actuel, mais en tout cas, là, c'est assumé, c'est pleinement assumé, c'est même théorisé d'une certaine manière. D'ailleurs, Sarkozy lui-même dit s'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de performance. Dans le champ de la psychiatrie, il annonce aussi la couleur. C'est pas normal de voir des patients dangereux se promener dans la ville. Donc, si vous voulez, là, on est vraiment dans quelque chose qui est, je dirais, du registre de l'obscénité néolibérale. Quoi. Alors, on voyait fleurir à cette époque-là, vous vous souvenez sans doute, puisqu'elle n'est quand même pas si éloignée, on voyait fleurir un certain nombre de collectifs, comme par exemple Pas de zéro de conduite, qui protestaient contre l'instrumentalisation d'une expertise de l'INSERM, qui visait à concevoir les enfants de moins de 3 ans, et la cible étant 2 ans, qui souffraient de troubles des conduites, de troubles du comportement, qui étaient en souffrance psychique, on les considérait comme finalement des enfants qui risquaient d'évoluer vers la délinquance. Et Sarkozy lui-même, dans les dernières nouvelles d'Alsace, avait dit qu'il fallait s'appuyer sur l'expertise INSER pour préparer la loi de prévention de la délinquance. Vous vous souvenez aussi de son discours après le tragique événement à Grenoble d'un étudiant qui avait été tué par un patient en fuite, je crois, de l'hôpital psychiatrique, où on voyait promouvoir finalement une conception très sécuritaire de la psychiatrie. On avait vu avec Madame Pécresse également la mise en concurrence des universités avec une conception de l'autonomie des universités un peu à l'américaine, d'ailleurs pas tout à fait vraiment à l'américaine, une conception très naïve d'ailleurs des universités américaines. Ça ressemblait aussi bien à l'Académie soviétique qu'opulent, si j'ose dire, avec les universités américaines. Un mélange vraiment très, très, très bizarroïde. Les universitaires eux-mêmes transformés en enseignants, chercheurs, produisants ou non produisants. Enfin, on était vraiment dans cette culture-là. Il y avait eu Sauvons l'hôpital d'André Grimaldi qui protestait contre la transformation du soin en service quasiment financier. C'est l'introduction de la tarification de l'activité, de la T2A, beaucoup participaient de cela. Vous vous souvenez des évaluations scolaires où finalement on passait son temps dans le primaire à évaluer les enfants plutôt qu'éveiller en eux le désir d'apprendre et le désir de connaissance, etc. Donc il y avait beaucoup de collectifs. Vous vous souvenez aussi de la FNAREN qui a protesté par rapport à la suppression de l'aide psychologique et pédagogique aux enfants. Enfin, il y avait plein de sauvons la clinique, sauvons l'hôpital, sauvons la recherche, sauvons la psychiatrie. Bon, et il nous a semblé important de procéder à une analyse conceptuelle, c'est-à-dire plutôt que chacun restant replié sur son secteur professionnel, de se demander s'il n'y avait pas un logiciel finalement qui traversait de manière transprofessionnelle l'ensemble de ces secteurs et qui pervertissait un petit peu leur acte professionnel. C'est-à-dire que ce qui comptait, c'était plus la finalité de l'acte professionnel, soigner, éduquer, chercher, informer. C'est plus ça, c'était les moyens. Donc il y avait vraiment un renversement, si vous voulez, des moyens et des fins. Et donc, il nous semblait important, avec cette analyse un peu critique, de théorie sociale critique, finalement, de cette transformation des métiers qui se trouvait décomposée, recomposée selon une nouvelle logique qui semblait vraiment très éloignée de la logique qui les avait fondées. D'ailleurs, vous savez très bien qu'à France Télécom, par exemple, ils ont subi de plein fouet cette transformation d'une culture de service public à une espèce de civilisation d'entreprise avec les palmarès, la mise en concurrence, la surveillance, le contrôle, la rationalisation. Donc, tout ça existait dans tous les secteurs. Et il nous a semblé que plutôt que de promouvoir la défense d'une profession ou la défense d'une conception de la profession, il valait mieux essayer de procéder à l'analyse de ce qui était transprofessionnel, essayer de fédérer, regrouper les collectifs. Alors là, vous avez parfaitement raison, c'est que nous n'avons pas réussi à fédérer les collectifs. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement un nationalisme des collectifs, un patriotisme des collectifs, qui fait que bon, la nuit sécuritaire défendait la psychiatrie et n'avait aucune envie de se fondre dans un mouvement comme Bas Zéro de Conduite qui avait 200 000 signataires, ou bien, si vous voulez, venir avec d'autres collectifs à ce niveau-là. Et je crois que c'est très intéressant parce que c'est vraiment le symptôme aujourd'hui d'une crise justement du politique d'une crise du lien social, que cette difficulté à sortir justement de son champ. Bon, là, je ne serais pas du tout d'accord avec vous, c'est que non seulement on a eu 80 000 signataires, c'est quand même pas mal, mais on a continué à exister, on existe encore, on se porte plutôt bien 5 ans plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a constitué une association, on travaille beaucoup, on fait des journées, on a produit collectivement des livres qui ont quand même marqué, compté, comme La folie évaluation, comme L'appel des appels pour une insurrection des consciences. Prochainement, sous la direction de Barbara Cassin, on a un livre qui va sortir sur la vie derrière les grilles, sur les grilles d'évaluation, un bouquin assez conséquent. On a eu pas mal de journées qui ont eu beaucoup de succès. Des comités locaux se sont créés un peu dans toute la France, qui ont plus ou moins, il faut être franc bien sûr, qui ont plus ou moins vécu, se sont développés ou se sont séparés. C'est une espèce de scission qui a pu se produire dans certaines régions. Bon, je crois que déjà, très franchement, je pense que nos analyses, nos idées, notre travail est quelque chose qui a été absorbé par l'opinion et dont, je dirais quand même, la plupart des politiques, en tout cas au moins les politiques humanistes, tiennent compte. Et je crois que, bah oui, je crois que par exemple...
Je ne conteste pas qu'il y ait un travail, une vie intellectuelle, sauf qu'à un moment donné, dans un contexte fort de crise comme aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on laisse vivre ces intellectuels d'un côté. Un certain nombre ont aussi démissionné, on ne les entend plus. De l'autre côté, les politiques, ils font leur vie.
Oui, mais on n'entre pas dans l'avenir à reculons. On ne regarde pas la route, si vous voulez, en ayant l'œil fixé sur le rétroviseur. Des figures comme celle de Marx ou de Freud, ou même des figures comme celle de Lacan, ou bien Bourdieu, par exemple, en sociologie, je crois que c'est plus tout à fait dans la culture, ou en tout cas, on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir les voir émerger. Moi je ne peux pas vous dire ça. Je pense que, par contre, il y a un autre type de travail qui se fait, qui est celui... à mon avis, d'une circulation des concepts, des idées, qui prennent corps, qui se corporéifient dans des actions collectives, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins de succès. Mais, écoutez, je prends juste un exemple très simple. C'est quand même nous qui avons lancé le slogan « Remettre l'humain au cœur de la société ». Le Front de Gauche, là, quelques mois après, a récupéré, tant mieux d'ailleurs, et a emboîté le pas. Et à peu près partout, aujourd'hui, c'est une pensée qui traverse, si vous voulez, les différentes actions. Non, le problème majeur, si vous voulez mon point de vue, le problème majeur, c'est celui aujourd'hui de la prolétarisation générale de l'existence, dont j'ai parlé d'ailleurs dans la conférence à l'UMA Café. La prolétarisation généralisée de l'existence est un point très important qui explique peut-être, on va dire, l'inertie aujourd'hui des politiques, ou du moins leur impuissance à prendre une décision digne de ce nom. Alors, la prolétarisation, qu'est-ce que c'est ? Vous vous souvenez sans doute que Marx dit que l'ouvrier est devenu un prolétaire, pas simplement eu égard aux conditions misérables de son existence sous l'effet de l'industrialisation, de l'urbanisation. Il est devenu un prolétaire dans la mesure où son savoir-faire et son savoir ont été confisqués par la machine qui lui a prescrit des actes de plus en plus précis, mais de plus en plus segmentés, de plus en plus rationalisés. Et donc finalement, il s'est trouvé dépossédé. Il est aliéné aux exigences de la machine, il est aliéné au mode d'emploi de la machine. La philosophe Simone Weil, philosophe élève du philosophe Alain, n'est-ce pas, dit aussi on se résigne à nourrir les hommes pour qu'ils servent les machines, et elle dit tout se passe comme si le lieu de la décision s'était transféré de l'être de l'ouvrier vers le programme de la machine. Moi j'ajoute, c'est mon petit apport si vous voulez, que le monde paysan s'est prolétarisé à partir du moment où le savoir-faire du paysan, son savoir-être, son rapport à la nature, à lui-même et aux autres, s'est trouvé confisqué par les exigences de la production agricole qui lui ont prescrit ce qu'il devait planter, à quel moment pour répondre à la demande du client. Et vous avez aujourd'hui une prolétarisation également de ces artisans que sont justement les médecins, les infirmiers, les orthophonistes, les travailleurs sociaux, les psys, les journalistes, les acteurs culturels, les magistrats, les éducateurs, les enseignants, les chercheurs, etc. Donc vous avez véritablement aujourd'hui une espèce de prolétarisation qui opère par la confiscation, si vous voulez, de nos capacités de créer, d'innover, d'imaginer, d'inventer, enfin, l'œuvre de l'artisan, c'est-à-dire qu'il se trouve confisqué par ces machines immatérielles, mais bien réelles, que sont les règles de bonne pratique, que sont les procédures démultipliées, que sont les exigences des protocoles standardisés, pris dans une espèce de standardisation comparative, ce qu'on appelle le benchmarking. Et ça, c'est la grande philosophie de l'évaluation. Alors cette prolétarisation, moi je pense qu'elle touche aujourd'hui l'homme politique. Ce qui est très frappant, si vous voulez. Alors si on regarde un peu dans le rétroviseur, je vous l'ai reproché tout à l'heure, mais je vais le faire maintenant. Bon, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, des déclarations à la Roosevelt, des déclarations à la De Gaulle, il n'y a plus ça. Quand on lit les textes de Jaurès, à l'Assemblée, c'est extraordinaire, hein, n'est-ce pas ? Et à côté de ça, c'est très pauvre aujourd'hui. C'est quoi ? On a quoi ? On a une espèce soit d'animateur télé qui va défendre tel truc ou tel autre, ou bien qui va faire la promotion du plan cancer, qui est une chose extrêmement importante. Mais moi, je crois que c'est pas un président de la République de faire ça. Enfin, faut être sérieux, quoi. Qui vous voulez, ou qui va essayer de justifier qu'il n'a pas renégocié le traité européen, bon, mais que c'est comme s'il l'avait fait. Enfin, bon, il n'y a pas de courage politique. C'est-à-dire que le propre d'une démocratie, c'est une ambition. La démocratie, c'est une liberté qui oblige. C'est une véritable ambition. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'une invention dans la démocratie.
Roland Gory, président de l'association L'Appel des Appels, est avec la complicité de l'Huma Café, l'invité du magazine.
Compte. La démocratie, ça signifie, quand elle a été inventée, par exemple, elle a été aussi inventée ailleurs dans le monde, mais quand elle a été inventée à Athènes entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, c'était quoi? C'est qu'en gros, la bonne décision pour la cité, elle n'est pas inscrite dans la tradition, elle n'est pas inscrite dans les coutumes, elle n'est pas inscrite dans les textes religieux, elle va advenir de par la capacité des citoyens de discuter ensemble. Comme le dit le prix Nobel indien d'économie Amartya Sen, n'est-ce pas, la démocratie, c'est un gouvernement par le débat, un gouvernement par la discussion. Vous la voyez, vous, aujourd'hui, la discussion? Et vous voyez un homme politique capable de réinventer les conditions même d'un débat citoyen? Donc, en gros, la politique, elle est prise, comme toutes les professions dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est prise sous l'impact d'une prolétarisation qui dépossède l'homme politique de sa capacité d'innover, d'inventer, de faire son boulot d'artisan, de décider. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se soumet à une espèce de logiciel, plus ou moins d'ailleurs réel, de l'économie et de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'il est complètement pris dans la société de la marchandise et du spectacle. Je suis extrêmement prudent sur la psychologisation des problèmes sociaux. J'aime pas beaucoup m'avancer comme l'expert psychanalyste ou psychopathologue qui pourrait rendre compte des problèmes sociaux en les expliquant par des motifs psychologiques. C'est pas mon truc, ça. Non, moi, je suis un citoyen qui est façonné par sa propre histoire, par sa propre expérience. Et parmi mes expériences, j'ai l'expérience d'universitaire, d'avoir dirigé des laboratoires de recherche, d'avoir créé des départements d'enseignement, d'avoir écrit des bouquins, des articles, d'avoir expertisé même. Et puis, j'ai l'expérience du praticien du soin psychique, du psychanalyste, du psychothérapeute qui effectivement a rencontré un certain nombre de patients. Je crois que les choses s'éclairent un peu réciproquement, mais je ne voudrais pas réduire justement les souffrances sociales aujourd'hui à des problèmes psychologiques. Bon, ce qui est certain, c'est que les dispositifs d'évaluation aujourd'hui sont tous des dispositifs qui réduisent la valeur au prix, à la mesure, à la quantité, ou bien au degré de procédure, au degré de conformité. C'est-à-dire que j'ai fait un article qui s'appelle, enfin un chapitre de livre qui s'appelle, si vous voulez, « La valeur est-elle soluble dans la pensée du droit et des affaires ?» Ça veut dire que jamais autant qu'aujourd'hui, on a financiarisé l'ensemble des activités humaines et l'humain lui-même. L'humain, enfin, non seulement la santé est une marchandise, l'entreprise est une usine à soins, mais l'université aussi, enfin, il faut avoir le courage de le reconnaître, mais... Vraiment, jamais autant qu'aujourd'hui, on a introduit la logique des marchés dans l'ensemble des secteurs de l'existence sociale. Quand je dis logique des marchés, c'est pas simplement les moyens, vous voyez, c'est pas simplement les budgets qu'on donne, c'est pas simplement le coût. Hein. D'ailleurs, c'est terrible. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui, par exemple, n'est-ce pas, on va parler des services publics, de l'éducation, de la justice, de la santé, comme étant des déficits ou participant au déficit public. Je veux dire que juste après la Deuxième Guerre mondiale, quand vous avez le Comité international de la Résistance, ou quand vous avez le Bureau international du travail qui se réunit à Philadelphie en mai 1944, ils disent « on veut plus de cette boucherie, on veut plus de cette industrie de mort, il faut... » trouver la paix entre les nations et la paix civile à l'intérieur de chaque nation. Et qu'est-ce qu'il propose? Il propose un investissement sur la santé, sur l'éducation, sur la justice. C'est-à-dire que ça apparaît comme des investissements là où aujourd'hui on nous les présente comme participant à des déficits. Rien que ça, c'est un monde transformé. C'est pas simplement une question de budget affecté à la santé ou de budget affecté à la recherche. C'est, si vous voulez, une modification à l'intérieur même du champ. C'est-à-dire c'est véritablement non seulement un appauvrissement matériel de ces secteurs, mais c'est un appauvrissement symbolique considérable dans le langage, dans la manière de penser, dans la manière de travailler. Et ça, je crois que c'est un point qui est très important.
En fait, je ne psychologise pas, mais qu'est-ce qui explique qu'on puisse accepter, je ne sais pas, on prend n'importe quelle catastrophe où il y a un pollueur et on va venir l'aider et on va même lui trouver des excuses et on ne va pas être choqué s'il fait une opération de greenwashing avec son logo ou autre. Qu'est-ce qui fait qu'on ne soit plus en capacité de dire « mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi ».
Oui, mais il y a beaucoup de questions, si je peux me permettre, dans votre question. Elle est à plusieurs tiroirs. La première chose, j'en ai parlé à l'UMA Café l'autre soir, n'est-ce pas, il faut bien voir que depuis le début, le capitalisme, c'est ce que Max Weber, le sociologue, n'est-ce pas, appelle, si vous voulez, la rationalisation économique, a nécessité que les humains adoptent des manières de se comporter. Donc, si vous voulez, il y a une rationalisation des conduites humaines pour répondre aux exigences sociales et économiques du développement des différentes formes de capitalisme. Donc, ça, c'est un point qui est très important. Jamais autant qu'en Occident, il le dit, hein, jamais autant qu'en Occident, n'est-ce pas, nous ne cessons de constater, y compris pour des sphères de conduite de vie qui évoluent indépendamment les unes des autres, que c'est en Occident, seulement en Occident, que se sont développés certains modes de rationalisation. Il précise, lié à la rationalisation de la technique à celle du droit, l'émergence du rationalisme économique, donc du capitalisme, si vous voulez, fut un effet tributaire de la capacité de la disposition des hommes à adopter des formes spécifiques de conduite de vie pratique et rationnelle. Mais, si vous voulez que, en gros, pour répondre aux exigences des systèmes capitalistes, parce qu'il y en a plusieurs, la civilisation des mœurs a mis en place des dispositifs qui contraint, mais doucement, gentiment, insidieusement, n'est-ce pas, on n'est pas dans le totalitarisme des régimes du XXe siècle, n'est-ce pas, mais tout doucement, qu'il est contraint à se conduire d'une certaine manière, non seulement sur les lieux du travail, ça s'appelle l'organisation scientifique et technique du travail, mais aussi dans leur vie intime et sociale. C'est ça qui est très important, parce qu'il y a une espèce d'incorporation des normes qui ont lieu sur les lieux de travail, d'incorporation à l'intérieur de soi-même, qui fait qu'ensuite, même pour la vie amoureuse, vous savez, sur les sites de rencontres, des gens se présente comme lors d'un entretien d'embauche. Voyez, donc c'est un point qui est extrêmement important. Ça se développe, on va dire, tout au long du développement du capitalisme. Alors, il y a les institutions qui se constituent, pourrait-on dire, n'est-ce pas, au XIXe siècle et qui se développent aussi au XXe et autres. Bon. Après, pour répondre à votre question, que se passe-t-il? Ce qui se produit, on va dire, à la fin du XXe siècle et qui effectivement qui apparaît en même temps que cette nouvelle forme de capitalisme qu'on appelle le capitalisme financier, c'est-à-dire qu'on ne produit plus des biens, des objets, n'est-ce pas, où l'humain se produit, n'est-ce pas, marxisé, que l'humain produit son humanité en produisant les objets qu'il fabrique. Il ne produit pas simplement des objets ou des services. Il produit un certain type d'humanité. On retrouve la même idée, d'ailleurs, chez Jaurès. Bon. Si vous voulez, à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, c'est plus des produits, des objets, des services que l'on rend. Comme vous le savez, c'est de la spéculation. Et en gros, l'homme n'est plus une marchandise, il est un produit financier. D'ailleurs, enfin, j'ai donné des exemples sur la manière dont ça se transforme en psychiatrie, où en gros, on va emprunter aux compagnies d'assurance le mode de pensée, la souffrance psychique. C'est-à-dire pour établir le risque de récidive de comportement déviant ou de comportement délictueux, on va se baser sur une configuration de critères et d'items de même nature que, par exemple, les compagnies d'assurance, pour fixer des primes d'assurance vie, vont vous faire répondre à des questionnaires et établir un profil. Ben, c'est pareil. Et là, c'est absolument dramatique, cette manière de penser l'humain. Alors, ce que je pense, pour prendre, il y a plusieurs raisons, bien évidemment, mais pour prendre deux facteurs majeurs dans les transformations plus récentes, si vous voulez, c'est d'une part, effectivement, l'explosion du système technicien et sa mise sous tutelle par l'informatique qui a permis, cette espèce de numérisation du monde qui a permis la coordination des autres sous-systèmes techniques. Et ça, c'est une puissance considérable. On n'a pas le temps d'en parler là à la radio, mais c'est un point extrêmement important, bien sûr. Donc, si vous voulez, il y a cette technique. Mais il faut bien voir, et là, je voudrais juste citer aussi un philosophe de la technique qui est plutôt, lui, technophile que technophobe, d'ailleurs, c'est Gilbert Simondon, qui dit « Ce n'est pas le travail à la chaîne qui produit la standardisation, mais la standardisation qui permet au travail à la chaîne d'exister ». Donc c'est un point important. C'est que, si vous voulez, ce n'est pas la technique qui nous a amenés à être assignés à des places d'instruments ou de fonctions. C'est bien parce que nous étions déjà dans une civilisation qui considérait l'homme comme un instrument et comme une fonction, n'est-ce pas, que les techniques se sont développées, hein, et certaines formes de sciences. Alors je crois qu'il y a ça. C'est un point qui est très très important, bien sûr. Mais il est d'autant plus important que le politique a abandonné sa fonction, a déserté ses responsabilités. Je veux dire par là que la dérégulation si vous voulez, la mondialisation sont responsables, bien évidemment, de la situation dans laquelle nous sommes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le président de la République ne va pas pousser à la séparation de la banque de dépôt et des banques d'investissement? Il va faire une petite réformette, mais profondément. Il ne peut pas contrôler le système, parce que le système peut décider du jour au lendemain de transférer des milliards d'euros d'un compte à l'autre, d'un bout de la planète à l'autre, etc. C'est-à-dire qu'on a perdu le contrôle politique. Et si on ne peut pas récupérer ce contrôle politique, on ne pourra pas résoudre la crise culturelle, sociale et économique que nous traversons. Parce que c'est une crise des valeurs. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui fait autorité ? Alors, à la place de l'autorité, là, aujourd'hui, on a toute une espèce d'inflation, d'enflure de normes, de règlements, de circulaires. Bon, c'est ce que fait Bruxelles pour aller vite. Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas d'autorité politique que ça produit des tas de choses qui calibrent les comportements comme on calibre les tomates.
Lors de votre conférence, vous avez eu carte blanche.
Ils m'ont laissé le choix et je suis heureux et libre d'avoir cette possibilité. Moi, j'aime bien improviser mes conférences. J'ai toujours des tas de textes dans lesquels je puise. Je pense que ce qui a aussi produit, si vous voulez, cette modification, c'est au départ, j'étais un peu invité à parler de la dignité de pensée et de la fabrique des imposteurs, donc des deux ouvrages que j'ai publiés en 2011 et en 2013, là, entre autres, et la folie évaluation en 2012. Et puis, ils ont appris, j'en suis ravi, que je publiais un livre qui est paru, qui s'appelle « Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?», qui est davantage centré sur les questions d'émancipation politique et justement de voir comment, aujourd'hui, cette langue de la technique, nous l'avons incorporée complètement pour penser le monde. Et encore une fois, il ne faut pas rejeter le numérique, il ne faut pas rejeter la technique. Ce sont des instruments formidables, mais ce sont des instruments qui peuvent être des instruments d'émancipation sociale s'ils sont mis, je dirais, sous la tutelle d'une pensée humaine et politique, ou bien des instruments terrifiants de soumission sociale. Hein. Vous savez, on sait très bien que tous les fichiers informatiques aujourd'hui vont laisser des traces et des ombres numériques des professionnels, des populations que ces professionnels soignent, et vont donc déterminer des profils qui conduisent parfois à des réductions de postes, qui conduisent à la recomposition d'actes professionnels qui conduisent au suivi, voire au contrôle des populations prises en charge. Et là, on voit bien que la question de la liberté se pose. Elle est essentielle. Et dans mon livre, notamment, je développe beaucoup, si vous voulez, cette conception de la liberté. Ou bien la liberté est du côté de la liberté politique, de ce qu'on appelle le bonheur public, c'est-à-dire non seulement l'accès, mais pourrait-on dire presque le devoir de participer à la gestion du vivre ensemble, à la gestion collective, aux décisions politiques de la cité, ou bien la liberté, c'est en gros la liberté de jouir de ses biens et de sa sécurité. On sait bien que ça s'est joué, on va dire, pour aller très vite, au deuxième siècle après Jésus-Christ, c'est au niveau de la culture romaine, où on est peut-être passé d'une confusion entre la liberté, c'est-à-dire la capacité que j'ai de me faire des amis, de vivre dans un réseau social, à contrario de l'esclave, parce que l'homme libre, c'est ça, c'est celui qui n'est pas esclave, celui qui a franchi de l'esclavage ou qui n'a pas été esclave et qui a toujours été un homme libre, et qui donc a la possibilité d'initier du social, voyez, à une autre conception de la liberté qui est plutôt quelque chose comme la jouissance de biens que l'on possède individuellement, en propriété. Et je crois que, pour prendre un symptôme dont je pars dans mon livre, et qui est une analyse d'ailleurs d'Anna Arendt, si vous voulez, on voit bien comment à la fin du XVIIIe siècle, aussi bien du côté de la Révolution américaine que du côté de la Révolution française, il y a eu cette espèce de confusion. Est-ce que le politique devait se charger de construire la liberté, parce que le but de la Révolution, c'était la liberté, ou bien est-ce que le politique devait traiter la misère sociale, devait traiter la question sociale et permettre à chacun d'être heureux? Vous vous souvenez de cette phrase de Saint-Just, n'est-ce pas ? Le bonheur est une idée neuve en Europe. Alors, C'est là où on progressivement a vu au cours du temps que le bonheur est devenu un peu le nom, n'est-ce pas, enfin ce au nom de quoi on demandait aux populations de se soumettre, d'obéir, de faire ce qu'on leur dit de faire pour avoir la croissance, pour avoir la sécurité, pour avoir le plein emploi. Et là, quelque chose se perd, c'est la liberté de décider politiquement de son sort et de participer à celui des autres.
Merci à Roland Gory, président de l'association L'Appel des Appels, auteur de « Faut-il renoncer à la liberté pour être heureux ?» et c'est paru aux éditions Les Liens qui libèrent, pour sa libre participation à ce magazine réalisé avec la complicité de l'Huma Café.